Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
Bonjour les enfants, c'est l'ami Rémi avec vous. Et nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin, ils rencontrent aussi plein d'autres amis.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation des animaux dans la fiction. Avec l'auteur de 1865, Dominique Le Grand, un ouvrage paru chez Hugo dans la collection New Way, dont on avait brièvement parlé dans la dernière émission de la saison. On s'était promis de rediscuter de cet ouvrage. Dominique, qui est en ligne avec nous. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour Jérôme.
Et on va aussi parler donc d'autres œuvres. Enfin, on va essayer, voilà, dans le débat, de glisser pas mal de choses. On pourrait par exemple aborder Rover Red Charlie, qui est une bande dessinée parue chez Comics Initiative il y a très peu de temps, de Garth Ennis et Michael Di Pasquale. Nous parlerons bien sûr cinéma aussi, parce que on a des films avec des animaux, il y en a quelques-uns quand même, hein, voilà. Par exemple, Grizzly de William Girdler, qui est disponible chez Film Media, Le Territoire des Loups de Joe Carnahan, disponible chez Metropolitan. On pourrait revenir aussi globalement, enfin, si on a le temps, on essaiera peut-être de parler un peu de la saga de la planète des singes, qui est disponible du côté de la Fox, qui est une saga qui part d'un livre aussi de Pierre Boulle, si on a le temps d'en parler. Moi, je pense à d'autres films, Isolation de Billy O'Brien, disponible chez TF1 Vidéo. Et puis, bien sûr, on parlera du best-seller du confinement, La Ferme des Animaux de George Orwell, alors qui est disponible chez plein d'éditeurs. Bon, on va vous conseiller de l'acheter chez Folio, voilà, comme ça, c'est l'éditeur comme ça qui nous paraît le plus facile à trouver chez les libraires. À mon avis, cette édition-là, vous n'aurez pas le mal à la dénicher. Pour causer de la représentation de l'animal dans la fiction, je suis accompagné de deux sacrés bestiaux, justement. Hein, pour être, excusez-moi l'expression, les amis. Hein, je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes et surtout animales qui nous écoutent.
Et puis avec nous également, une bête hirsute incroyable. Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut Damien, salut Dominique et salut à toutes.
On va essayer aujourd'hui de débattre sur la place des animaux dans la fiction, parce que on pense jamais à l'animal dans la fiction, enfin, hormis quelques films ou quelques films pour enfants. On va avoir un chien qui va être, je pense à Beethoven, des choses comme ça, voilà, des films familiaux. Comment, Thomas?
Cujo.
Cujo, ouais, qui est moins familial, mais on en a déjà parlé, par contre, qui est sur la famille, ça c'est vrai. Très bon film d'ailleurs, hein, de Lewis Teague d'après Stephen King. Mais on a aussi souvent tendance à oublier que bah, justement l'animal est souvent aussi le réceptacle aussi de pas mal de violence d'ailleurs, hein, parce que dans les films d'horreur, on va dire que le chat ne survit rarement. Hein, par exemple, le chat qu'on voit au bout de 5 minutes de film survit rarement à la totalité du métrage. On ne sait pas pourquoi tant de haine d'ailleurs envers ces animaux à quatre pattes. J'ai envie de vous demander à tous, mais je vais demander en premier à Dominique quand même. Dominique, toi qui as signé un ouvrage qui raconte l'histoire d'une actrice et de sa fille qui ont une prise de conscience par rapport justement à une vache laitière et qui décide de sauver un animal parce que bon bah elle découvre que tous les ans on fait faire des veaux aux vaches pour qu'elles puissent avoir du lait, tout ça. Elle trouve le procédé assez honteux parce qu'après les bêtes partent à l'abattoir. Selon toi, Dominique, quelle est la place des animaux dans la fiction? Parce qu'ils jouent un rôle important, les animaux, souvent dans la fiction.
Alors, ils jouent un rôle souvent important parce que je pense que les animaux sont une sorte de miroir de notre humanité ou de notre inhumanité souvent. Donc ils sont toujours présents, les animaux. Ils sont toujours présents autour de nous, ils nous accompagnent. La plupart d'entre nous avons des animaux, souvent des chiens et des chats. Mais ça se cantonne souvent là l'animal domestique, enfin l'animal familier. Ce qu'on appelle l'animal de compagnie. Alors, en fait, ce qui m'intéressait dans le roman, plutôt, dans le roman que j'ai écrit, c'était de parler d'animaux qui sont un petit peu devenus invisibles. Parce qu'on a l'animal de compagnie, celui qu'on connaît bien, qui est toujours avec nous. On a l'animal sauvage, qu'on vénère d'ailleurs assez souvent, qui est un animal assez charismatique, hein, que ce soit en littérature, je pense au lion de Kessel, enfin bon, on pourra en citer des milliers et des cents, et puis bien sûr dans le cinéma. Mais c'est vrai que l'animal d'élevage, c'est pas un animal qui est très emblématique de finalement du règne animal. On finit par ne plus le voir, et c'est justement ça qui m'a intéressé. C'est que c'est un animal qui sert à nourrir la planète, et c'est finalement un animal qu'on a rendu invisible, qu'on a désanimalisé, si on peut dire, quoi. Voilà, c'était ça le. Je pense que ça se partage en trois grandes catégories, en fait.
Oui, donc quand on évoque les animaux d'élevage, moi je pense tout de suite à un film récent, hein, qui est sorti en 2006, de Billy O'Brien, qui s'appelle Isolation. Isolation, voilà, mm-hmm. C'est le même titre, hein, de toute façon, en anglais, en français. Il arrivait à un moment, il a eu le Grand Prix et le Prix de la Critique au Festival de Gérardmer, hein, et il arrivait à un moment où le cinéma britannique avait le vent en poupe, hein, c'était... Juste après le film de Neil Marshall, The Descent, là aussi très bon film. Hein. On était dans une exploitation agricole qui est perdue, effectivement, dans la campagne irlandaise. Et puis, on a un fermier qui est accablé de dettes. Et sa vie va basculer. C'est-à-dire que ce film, c'est une sorte de version horrifique du petit paysan du Bercharwell avec Swan Harlow. Là, on est dans c'est une version cauchemardesque de ce film. Hein. Il est accablé par les dettes. Et du coup, il prête son bétail à des laborantins, en fait, qui font des expériences, hein, voilà, un peu inavouables. Et en même temps, il y a un couple qui fuit quelque chose, qui vient s'installer en caravane pas trop loin de chez lui. Bon, ils vont avoir un rôle important dans le film. Mais et en fait, bon, évidemment, dans son élevage, ces vaches vont se retrouver, il y a une vache qui est sur le point de mettre bas, et ces vaches vont se retrouver atteintes d'une étrange maladie, et d'un étrange mal, en tout cas. Et évidemment, le film s'inscrivait à l'époque dans toute une série de peurs qui étaient très prégnantes encore. On n'en parle plus aujourd'hui, mais il y avait la maladie de la vache folle. Il y avait également la peur du clonage, parce que c'était le début de cette histoire de brebis clones, tout ça, les manipulations génétiques, tout ça, ce sont des choses qui sont dans le film, hein, qu'on peut voir dans le film. Et ce qui était intéressant dans ce film, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du film avec Swan Harlow, c'était un film très naturaliste en fin de compte, très naturaliste, qui prenait un parti pris très radical. Le film est assez radical et le film est un véritable cauchemar poisseux. Et là, en quelque part, bon, bien sûr, c'est un film d'horreur avec un scénario, j'ai envie de dire, pas crédible à 100%, mais certains éléments du scénario peuvent se révéler crétins, et qui tourne au cauchemar réveillé et qui montre bien, effectivement, comment, pris au piège d'un système où il est accablé de dettes, le fermier, en gros, sacrifie ce qu'il a de plus sacré, c'est-à-dire ses bêtes, parce que les fermiers, ce qui est très paradoxal, et ce qui apparaît aussi dans ton livre 1865, c'est que les fermiers... pour eux, c'est normal, cette histoire de veau, de qu'on envoie à l'abattoir, tout ça et tout. Mais en même temps, ils ne sont pas caricaturaux dans ton livre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont pas mauvais avec leurs bêtes. Voilà. Et lui, c'est pareil. Au départ, c'est quelqu'un, je pense, qui aime ses bêtes. Et puis, qui se retrouve acculé dans une situation. Et puis, le film vire au cauchemar. Et ça devient un excellent film d'horreur, quoi.
Je n'ai imaginé ce protocole de manipulation génétique.
C'est beaucoup trop rapide. Personne ne bouge d'ici. Je mets la ferme en quarantaine pour le moment. Il faut absolument détruire cet embryon avant qu'on ne soit tous contaminés.
Je me suis trompé. Ça se transmet aussi à l'homme.
Merde.
Marie !
Qu'est-ce que vous lui avez fait ?
Écoutez Culture Prohibée.
C'est vrai, il ne faut jamais perdre de vue que les fermiers sont des, comme tu disais, c'est paradoxal, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent de ça, donc c'est du bétail. Hein. Bien sûr que ces animaux sont élevés dans le but de donner du lait et puis après de la viande, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'ils s'attachent à leurs animaux. Ils aiment leurs animaux, donc c'est vrai qu'ils sont pris dans un paradoxe, à tel point qu'il y a des éleveurs qui abandonnent la profession parce que voilà, ils sont trop près de leurs animaux et ils ne supportent plus de les envoyer à l'abattoir. Donc on a vu des cas comme ça. Il y a un très très bon documentaire anglais qui a été fait il y a quelques années, un court métrage d'un quart d'heure, un documentaire qui raconte l'histoire d'un fermier justement qui avait pratiquement une centaine de vaches, hein, 70 ou 80 vaches, je crois, et qui finalement, un jour, comme ça, donc s'apprête à envoyer une de ses vaches à l'abattoir, et en fait, il ne peut pas. Il est complètement bloqué, il reste devant le camion, et il a fait redescendre la vache en disant « c'est pas possible, je peux pas l'envoyer à la mort ». Et en fait, là, ça a été le début de la fin, c'est-à-dire qu'il a dû être obligé d'arrêter la profession et d'arrêter son exploitation, parce qu'il ne pouvait plus envoyer ses vaches à l'abattoir. Donc il y a quand même un dilemme moral quoi, chez le fermier quand même.
D'ailleurs, je digresse, mais sans digresser, hein, mais il n'y a pas un dilemme moral chez toi d'être fan de Toby Hooper comme ça et de défendre la cause animale?
Oui, mais en même temps, c'est pas si éloigné, mais ça je m'en suis rendu compte après, c'est que... Quand le film est sorti, j'étais enfant et je ne l'ai pas vu à l'époque, quand Massacre à la tronçonneuse est sorti, on n'a pas tellement mis l'accent là-dessus, mais en le revoyant quand il est ressorti pour les 40 ans de restauration et tout ça, on s'est aperçu que c'était quand même un film qui, quelque part, parlait un peu de la cause animale. Alors, bien sûr, ça paraît éloigné parce que, d'un seul coup, le bétail et la viande, c'est de la viande humaine. Mais en même temps, si on se souvient bien, c'est des ouvriers d'abattoir au chômage On voit des plans au début d'animaux qui sont quasiment moribonds, des vaches qui attendent dans des enclos sous un soleil de plomb au Texas. Et donc, en fait, ça parle un petit peu de... C'est un grand film quand même sur la maltraitance animale, sur l'élevage intensif. Hein, c'est le début de l'élevage intensif. Enfin, le début. En tout cas, c'est une des premières fois où c'est vraiment montré. Même si c'est suggéré, on voit quand même le fait que l'élevage intensif est devenu mécanique et a mis aussi des familles d'ouvriers d'abattoirs au chômage, hein, ce qui est le cas dans le film. Mais moi j'ai pas de problème là-dessus. Je peux voir Massacre à la tronçonneuse et manger des haricots. Il y a pas de souci.
C'était une boutade, hein, mais évidemment, oui. c'est aussi pour répondre à nombre de personnes qui voient toujours des paradoxes partout. Moi, je voulais, avant de laisser un de mes camarades, parce qu'il me dit il y en a assez des vaches, j'ai envie de parler des grizzlies, moi. Donc, avant de laisser la parole à mon ami Thomas, je voulais te demander comment t'expliques, puis peut-être aussi Damien et Thomas, moi je ne me l'explique pas spécialement, mais comment t'expliques le succès de La Ferme des animaux d'Orwell, qui est quand même qui est une satire politique et qui traite de l'URSS des grandes purges, en fait. C'est ça la métaphore du livre, hein, c'est ça que ça raconte. Mmh. Comment t'expliques ce succès là pendant le confinement? Parce que moi j'étais assez surpris que ce livre se vende énormément et soit aussi énormément téléchargé, parce que bon, visiblement il est énormément lu aussi sur des tablettes, tout ça et tout, et visiblement a été un boom, quoi, là, pendant le confinement, a fait un boom.
Alors, c'est ça peut paraître surprenant, mais en fait, maintenant, il va falloir en fait s'habituer dès qu'il y a un phénomène de société, qu'il y a un livre ou un film, et c'est vrai qu'il y a c'est plus de la littérature depuis un moment, qui fasse quand même miroir comme ça de notre société. Alors, il y avait eu, après les attentats, on se souvient qu'il y avait eu Paris est une scène d'Hemingway, qui était devenu une sorte de phénomène de société que tout le monde achetait. Après l'incendie de Notre-Dame, on trouvait plus du tout un exemplaire de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo chez les libraires. Et puis l'un des grands best-sellers aussi du confinement, ça a été La Peste, curieusement. Et puis c'est vrai que La Ferme des animaux, ce qui était assez étonnant, parce que bon, c'était pas forcément relié à la situation du Covid, si ce n'est que effectivement ça se passe dans une ferme, donc dans un lieu clos où les animaux sont confinés. Bon, on peut peut-être trouver quelque chose, un petit rapport avec ça, mais en même temps c'est vrai que cette Ferme des animaux, c'est un panorama, si on peut dire, de notre société, de notre hiérarchie dictatoriale ou démocratique. Enfin, ça met en lumière finalement un phénomène politique, une situation politique qui est assez passionnante. Et comme, bon, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que à travers les animaux, on voit les hommes. Bon, voilà, faut remonter à La Fontaine, et même avant La Fontaine, hein, il y a eu d'autres fables. Mais c'est vrai que je sais pas, d'un seul coup, il y a eu un coup de projecteur sur ce roman. C'est assez étonnant, parce que on se demande quel sera le prochain lié à un phénomène, pas trop grave, j'espère, mais qui deviendra un best-seller. C'est assez surprenant. Mais c'est vrai que j'ai pas trop d'explications. On a vu d'un seul coup le phénomène prendre de l'ampleur. Moi je pense que c'est parce qu'on y voit aussi un portrait de notre société à travers des animaux, hein. C'est surtout ça, je pense.
Oui, il y a certainement de ça. Bon, alors par contre, Thomas, il n'y a pas eu de grosses ventes et de téléchargement du film Grizzly, je suis désolé, je sais que c'est un film qui te tient à cœur. Donc je vais te laisser un peu nous parler de Grizzly. Je sens que tu as envie de nous parler, toi qui es un loup-garou picard, tu as envie de nous parler du Grizzly.
Oui, je suis un loup-garou picard, mais on dit que je suis un peu ours. Alors donc je vais parler un peu de Grizzly.
Et c'est pas faux.
Donc je vais parler un peu de Grizzly qui est réalisé par William Girdler en 1976. William Girdler qui est un petit maître de la série B, qui aime bien refaire, de faire des surfer sur la vague. Par exemple, il a refait un exorciste Blaxploitation. Et là, en fait, Grizzly, c'est ni plus ni moins les Dents de la Mer, mais dans la forêt, avec un ours. Alors, il faut savoir que l'ours qui joue dedans, l'ours, le personnage principal, donc, c'était un ours qui s'appelait Teddy. Hein, Teddy Bear, qui était quand même le plus grand ours en captivité à l'époque. Il faisait quand même, quand il était debout, 3,35 m de haut. Donc c'est quand même impressionnant. D'ailleurs, il y a un plan dans le film, on le voit face à un hélicoptère, parce qu'il se bat avec un hélicoptère. Quand même, ça déconne pas, c'est un film qui rigole pas. Hein. On le voit face à un hélicoptère, et c'est vrai qu'il est un petit peu grand, l'ours. Il dépasse un petit peu l'hélicoptère.
Sent the DM to the dicky, hit me back, she on the way. Hit her homie last night, out to turn a double play. This the life I really live, always put the art first. Neck deep in the freak, I'm a drown, I'm immersed. I got handles on the bitch, I can manage every curve. I don't trick for the chick, bring your car, bring your purse. Shit, two-tone chick, her pops blacked out. Met her in the street, signs telling her that I rapped out. She like street niggas, but you moving with the strap phone. Geeked out day, my god, boss in a rap. I'm spaced out, my cars keep on dropping. 18 hours a day, I was locked in. Can't keep chilling with thotties, they too toxic. Rich shitty dick, you hear me, I'm big popping. Grizzy, 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 yeah, wow. And I'm feeling real grizzly, 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 yeah, yeah, yeah. Niggas back up on that grizzy, 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 grizzly, yeah, yeah, yeah. And I'm feeling real grizzly, 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 yeah, yeah, yeah.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Animaux dans la fiction.
Grizzly, je dis, c'est ni plus ni moins que les Dents de la Mer dans la forêt, avec le shérif, les amis du shérif, et puis bien sûr les administrés, le maire, qui veulent absolument faire du pognon malgré le danger qui plane. C'est un film, c'est une série B, hein,
c'est efficace, Girdler, c'est efficace.
C'est efficace. Bon, faut pas chercher midi à 14h, faut pas bien réfléchir. Il y a vaguement un petit message écolo, mais c'est un film très plaisant et parfois c'est quand même un petit peu rigolo. Hein. On n'est pas loin du nanar parfois.
Il y a une scène de fuite en sac de couchage d'un enfant qui me fait pas mal rire, moi. J'avoue, c'est cruel, parce que derrière, l'enfant prend cher quand même. Mais
c'est pas cet enfant-là, en fait.
C'est pas cet enfant-là qui prend cher, mais il y a un enfant qui prend cher dans le film.
Il y a un enfant qui prend cher. Voilà, c'est l'époque où on pouvait étriper des gamins, voilà, librement, comme ça. On pouvait étriper les gamins. Et là, il y en a un qui perd quand même une jambe, voire une jambe et un bras. C'est quand même un film qui est assez sanglant. Il y a des campeuses qui se font étriper, bouffer. Enfin, c'est un film sympa. Bon,
je me souviens parce que je l'ai vu au cinéma.
Ben voilà, c'est sympa, t'es d'accord
Grizzly,
avec moi.
Le monstre de la forêt, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Ça, ouais.
C'est ça, ouais.
Voilà. Alors, je me souviens qu'à un moment, il décapite un cheval, je crois,
de
patte, hein.
Oui.
C'est ça?
Ouais, oui.
Et puis, bon, il y a une scène avec un mirador qui est absolument géniale. J'ai eu une anecdote parce que c'est marrant, mais donc à l'époque j'étais allé le voir au cinéma. J'avais 12-13 ans, quoi, donc j'étais pas allé au cinéma tout seul, mais mes parents m'avaient emmené. Et en fait, pour l'anecdote, je devais partir. Mon père m'avait dit, on va aller revoir, on va te faire découvrir Fantasia de Disney. Bon, donc on était parti en voiture pour aller voir Fantasia, et d'un seul coup on est passé devant une affiche, devant un cinéma qui projetait Grizzly, le monstre de la forêt. Et on a dit, stop, on arrête tout, on va voir ça. Donc, déception de mes parents, qui étaient partis pour voir Fantasia. Mais moi, je suis sorti réjoui de Grizzly, le monstre de la forêt.
Je te comprends, c'est une petite série B, je continue de dire, très sympathique. Bon,
oui,
qui est parfois un peu... un peu ridicule, mais je trouve que ça fonctionne bien. C'est effectivement un cinéaste efficace, hein, William Gardler. Mm-hmm. Bon, et puis il y a un vague message écolo sur la préservation de la faune et de la flore, mais très vague, hein, quand même. Hein.
Oui,
et
oui, puis, oui.
Bon, le final est quand même tordant, hein, je veux dire, il finit le grizzly à coup de bazooka.
Oui, c'est vrai.
Il y a des mecs aussi, ils meurent, puis finalement ils meurent pas. On ne sait pas pourquoi ils meurent pas, pour finalement remourir finalement après. Bon, parfois c'est un peu, il fait des effets suspense un peu inutiles. Mais moi, c'est un film que j'aime bien, que je trouve très sympathique et qui est. Moi, j'aime bien ce genre de film, ce genre de série B. Et dommage qu'on en voit plus beaucoup actuellement, quoi.
Oui, c'est représentatif quand même d'une époque et d'un certain cinéma. Voilà.
Voilà. À peu près la même année, je crois, il y avait Soudain les monstres de Bert Gordon. Mmh. Et voilà, il y avait en même temps aussi un peu ce message vaguement écologique, quand même.
Je sais que mon ami Damien, on est allé peut-être un peu vite. Toi, tu voulais nous reparler de la ferme des animaux. Nous, on est des cinéphiles fous. Alors, dès qu'on se met à parler d'un film de William Gardler, tu nous tiens plus, quoi. Donc, du coup, je t'ai oublié, Damien. Je te demande de me pardonner et je t'écoute. On t'écoute tous, d'ailleurs, au sujet de la ferme des animaux.
Non, mais c'est pas grave. C'était très bien, le grizzly, pour retourner dans la petite ferme domestique. Donc, oui, la ferme des animaux, en termes de bouquin et non film d'animation. Pour préciser, c'est la première œuvre de George Orwell que j'ai découvert au lycée et qui m'a profondément marqué avec son histoire parabole, finalement, de la révolution communiste. Et pour reprendre ce que disait Dominique, et je trouvais très intéressant, c'est de justement comparer cette ferme où les animaux sont enfermés avec le confinement sociétal que tout le monde a vécu, et aussi le mettre en parallèle finalement avec un temps de révolte et d'opposition qu'on a également aujourd'hui. Mais ce qui est aussi très intéressant par rapport au statut animal, c'est qu'on passe finalement d'animaux qui ont un statut de production comme on peut avoir dans Okja de Bong Joon-ho, et qui deviennent finalement qui vont devenir finalement ennemis de humains. Donc on passe de finalement des animaux qu'on utilise pour produire à des personnes qui se révoltent contre nous, un peu ce qu'on peut retrouver dans le bouquin Zoo de James Patterson, ou encore dans le film White God de Cormel Mundruczo, où une meute de chiens se met à attaquer les hommes. Du coup, ils deviennent les ennemis. Au final, ils reprennent cette hiérarchie qu'ils ont abandonnée jusqu'à la dernière scène du livre, qui est très bien écrite et absolument marquante.
Ce qui est vrai, c'est que il y a quand même il y a quelque chose que tu rappelles là, Damien, quand tu dis ça, c'est que vu la période que l'on vit actuellement, il y a de grandes chances que beaucoup d'espèces animales nous survivent quand même.
La ferme des animaux sort chez Malavida en édition collector DVD.
Ah oui, le
film d'animation.
Le film d'animation.
De John Halas et Joy Batchelor.
Je garde un souvenir assez mitigé du film, moi, mais je l'ai vu il y a fort longtemps. Il faudrait que je le revoie.
Avec un livret de 20 pages. Bon, ça.
Ouais, tu vas te l'acheter, je crois, Thomas. C'est ça. Je sens que tu vas te laisser tenter. Au niveau, on va parler un peu de cinéma. Et avant de revenir un peu sur ton ouvrage, je voulais moi parler aussi de bande dessinée, parce qu'il est sorti une bande dessinée un peu particulière. Tu disais tout à l'heure, Dominique, qu'on a tous, enfin tous ou plein de gens ont des chats ou des chiens, voilà. Garcenis, qui est un auteur qui a été un peu remis au goût du jour parce que l'une de ses BD, The Boys, a été adaptée en série télé, alors je crois que sur la plateforme Amazon, il me semble, hein, voilà. Et série qui retranscrit bien quand même l'état d'esprit de la BD de Garcenis. Et on rappelle, Garcenis, c'est l'auteur surtout d'un des meilleurs comics de tous les temps, The Preacher, qui est un comics extraordinaire, et puis qui est vraiment extraordinaire et qui a donné une série que je trouve plutôt moyenne. Mais bon. Et il a écrit Rover, Red et Charlie, c'est trois chiens, en fait. Voilà. C'est un comics book qui est paru en avril 2020, là, hein, donc il y a très peu de temps. Et qui est paru chez Comics Initiative. Alors, c'est Michael Di Pascal qui dessine. D'ailleurs, avec un,
c'est plutôt vériste, c'est plutôt naturaliste. C'est-à-dire que les chiens ressemblent pas aux super-héros habituels. Voilà, ils sont pas, c'est pas des super chiens. Voilà, ce sont des chiens très classiques avec bedonnants, voilà, qui ressemblent à nos chiens. Voilà, nos chiens domestiques, puisque là, ce sont, sont des chiens domestiques. Et ces trois chiens se retrouvent sans leur maître, Rover, Red et Charlie, puisque en fait, l'humanité, alors on ne sait pas pourquoi, a été comme touchée par un virus. Et c'est, les humains se déciment entre eux. Et c'est l'espèce, donc, les espèces animales qui survivent, et surtout là, les chiens. Et le coup de force un peu de ce comics, qui n'est pas le meilleur comics de Garcenis, on en est loin, hein, le grand Garcenis, moi je trouve, là, on a du mal à le retrouver ces dernières années, mais en tout cas, c'est une de ses meilleures BD depuis longtemps. Dans celles qui sont celles qui ont été publiées récemment en France. Et le coup de force de ce comics là, ce que dit Alan Moore dans la préface, qui aime beaucoup ce comics, c'est que les chiens parlent comme des chiens. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de faire parler les chiens comme des êtres humains. Voilà. Donc par exemple, on découvre que les chiens, quand ils aboient, ça veut dire je suis un chien, je suis un chien, je suis un chien. Voilà, c'est, enfin, en tout cas, c'est ce qu'a décidé Garcenis, le scénariste. Hein, voilà. Et le livre est une sorte de road trip, comme ça, de ces trois chiens qui vont essayer d'aller dans un endroit plus clément, hein, de ce qu'ils appellent le grand plouf, qui est en fait la mer, voilà, pour pouvoir s'éloigner de au maximum de ces humains devenus fous, de, parce qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe, mais ils se déciment entre eux avec une grande violence, et on a des scènes, bien sûr, comme souvent chez Garcenis, ultra violentes ou très scabreuses. Ça, il ne peut pas s'en empêcher, puisque c'est un peu sa marque de fabrique. Mais ça donne un récit intéressant, d'abord émouvant, puisqu'on arrive à s'émouvoir pour ces chiens qui, en fin de compte, ils nous les présentent comme certains ont un langage plus limité, d'autres moins, tout ça. Ça donne un récit, moi, fois très intéressant. Je pense que c'est l'un des rares exemples de comics naturalistes avec prenant comme héros des chiens. Et pour les fans de Garcenis, on pourrait dire que c'est une sorte de crossover de Crost, un autre de ses comics, où les gens devenus fous, comme touchés par un virus, se mettent tous un peu à se zombifier et à s'entretuer entre eux, à devenir tous très, très sauvages. Quoi, voilà. Et là, on pourrait imaginer que ce sont des chiens qui s'éloignent de ce monde devenu fou où les humains s'entretuent. Voilà. Et ça donne... ça donne quand même une BD assez, assez intéressante, parce que pour moi, assez unique dans ce qu'elle raconte.
Ce que tu me dis me fait un peu penser à un autre film, un film d'animation qui est The Plague Dogs de Martin Rosens, où justement tu as des chiens qui sont, enfin, qu'on utilise dans les laboratoires dans lesquels on injecte des maladies mortelles pour voir un peu ce que ça donne et créer des germes, qui réussissent à s'échapper et qui finalement sont en quête de liberté et finissent par arriver justement à la mer où ils décident d'échapper aux hommes qui les ont justement entourés et se mettent à nager le plus loin possible jusqu'à l'autre bout de la Terre.
En train de dire que Garcenis aurait peut-être un tout petit peu pompé son idée, mais va savoir, c'est pas impossible. On va dire qu'il a été influencé.
Shooting up on anything, tomorrow's never there. Beware the savage shore from 1984. Seek up super machine. Down all night, movie road. The standard would last, but I guess we can roll. We'll be right back.
Écoutez Culture Prune. Dominique, dans ton ouvrage, donc 1865, hein, qui est le matricule d'une vache, hein, voilà, les héroïnes choisissent en fait une action, en fin de compte, que je trouve assez individualiste. Hein, on est loin du collectif militant, en fait, parce que le monde militant, bon, il y a l'aspect collectif qui est très important. Elles choisissent de faire juste un geste, enfin, faire juste. C'est pas un petit geste, mais de faire un geste dans leur coin. Voilà.
Oui.
Et pourquoi ce choix ?
Je pense que c'est parce qu'ils se sont attachés à cet animal en particulier. Effectivement, elles n'ont pas du tout d'esprit de militantisme. Bon, d'une part, la jeune fille est bon, adolescente, et elle est un peu jeune pour être militante. Et puis la mère vit dans un autre univers. Elle est comédienne et voilà, elle a pas vraiment eu le temps de militer pour quoi que ce soit. Et puis je dirais qu'elle n'y a jamais vraiment songé, quoi. Et en fait, c'est une prise de conscience par rapport à un animal en particulier, je crois. Alors bien sûr, ça va déboucher sur le fait qu'elles vont découvrir un peu les dessous de l'élevage industriel, comment ça se passe. Pourquoi sauver une vache ça pourrait être celle d'à côté, ça pourrait être 10 vaches, ça pourrait, voilà. Bon, mais et c'est vrai que ça devient une sorte de quête frénétique pour sauver une vache et puis son veau, quoi. Voilà, mais c'est un acte isolé, je dirais, un peu désespéré, ce qui surprend d'ailleurs l'ex-mari de cette femme qui est un peu atterré par cette sorte de croisade un petit peu frénétique, et en même temps qui comprend voilà pourquoi on s'attacherait pas à une vache comme si c'était c'est un être, hein. Il y a quelque chose qui passe, il y a une sorte de courant qui passe entre l'animal et l'être humain, exactement comme si on trouvait un chien abandonné, ou quand on va, moi je n'ai jamais adopté d'animal à la SPA, mais j'imagine que c'est pas évident quand on passe devant des cages où il y a des dizaines de chiens d'en choisir un, par exemple. Pourquoi un et pourquoi pas les autres, pourquoi pas celui d'à côté, voilà, donc c'est vrai que c'est un acte isolé, tout à fait.
Non, mais je posais la question parce que la question du militantisme se pose, d'autant plus que le livre est coédité par L214, qui sont des militants qui se battent contre la souffrance animale, bon, qui ont encore, il y a peu de temps, mis en avant des choses qui se passaient des choses immondes qui se passaient dans un élevage, voilà, bon, qui sont contestées par l'éleveur, hein, qui dit qu'il va porter plainte pour diffamation. Moi, je sais pas où ça en est, mais en tout cas, je crois que c'était un élevage de canards pour le foie gras, oui. L'association coédite le livre. Comment s'est passée, toi, cette rencontre justement avec le monde militant et puis avec cette association, parce que c'est pas fréquent en fin de compte une association, parce que Hugo, c'est un éditeur qui a pignon sur rue, c'est un éditeur très connu, et puis vient L214 qui décide de s'associer à cette publication. C'est quand même, puis c'est assez chouette pour toi vu le thème du bouquin.
Oui, alors en fait, quand Hugo m'a contacté en me disant qu'ils avaient lu le manuscrit et qu'ils voulaient vraiment le publier, moi, j'étais pas du tout au courant que L214 serait partenaire de cette édition. Alors ça m'a fait très plaisir parce que c'est vrai qu'Aïk 214, je les suis depuis pas mal de temps, même si je suis pas du tout militant de Aïk 214, mais je vais régulièrement sur leur site, j'essaye de signer toutes les pétitions que je peux signer. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont abominables. Tu parlais de cet élevage de canards qui est assez étonnant. Et puis il y a des choses qui sont très paradoxales. C'est vrai que c'est des lanceurs d'alerte. Ils prennent beaucoup de risques, hein, en rentrant dans des abattoirs ou des élevages qui sont parfois mieux gardés qu'une centrale nucléaire. Ils prennent pas mal de risques, ils posent des caméras. Et c'est vrai que le paradoxe, c'est que les gens qui ont ces élevages, qui sont vraiment des centres de cruauté institutionnalisés, se retournent contre eux, les attaquent en disant « vous n'avez pas le droit de filmer ». C'est-à-dire qu'en fait, on est cruel, on fait des choses abominables, mais en fait, on vous attaque parce que vous les avez montrés. Donc, c'est un truc absolument fou, mais bon, voilà, ils baissent pas les bras. C'est vrai qu'ils existent depuis pas mal d'années. Et puis, ils ont fait quand même, ils arrivent à obtenir des succès. Hein. Il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de magasins, d'antennes qui maintenant ont adopté des œufs de poules qui sont élevés en plein air. Alors qu'il y a encore 10 ans, même encore 2-3 ans, ils s'approvisionnaient dans des élevages de poules qui étaient élevées en cage. Bon, donc, ils arrivent quand même à faire un petit peu bouger les choses. Et voilà, donc après, moi, c'est vrai que j'ai découvert un peu l'univers de Aïk 214 déjà en amont par les vidéos choc, hein, qui ont suscité mon envie d'écrire le livre. Et puis après, c'est vrai que je les ai rencontrés. Enfin, j'ai rencontré une représentante d'Aïk 214 quand le livre était encore au stade de manuscrit. Et je me suis aperçu en fait qu'ils connaissaient très très bien l'univers des animaux. C'est pas seulement des militants, qui sont très très actifs. Ils combattent toutes les formes de maltraitance animale. Hein. Ça va de la corrida, à la chasse, aux pièges, aux vaches qui sont maltraitées. Enfin, vraiment, c'est très très étendu. Et ils connaissent très très bien l'univers des vaches. Parce que moi, quand je suis arrivé avec mon manuscrit, bien sûr. Moi, je vis en ville, alors je connais pas trop l'univers des vaches. Hein, j'ai pas de famille d'agriculteurs et de fermiers autour de moi. Donc, je me suis dit, voilà, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être des choses qui sont à corriger. Et justement, cette représentante d'Aïk 214 m'a aidé, un peu secondé. Elle m'a donné des tuyaux, elle m'a empêché de commettre des erreurs. Elle m'a apporté des statistiques, des chiffres qui ont apporté un crédit, une crédibilité au roman, que j'aurais peut-être fait des erreurs sans ça. Donc c'est pour ça que je l'ai remercié. D'ailleurs, elle s'appelle Camille Silver. Elle travaille avec Aïk 214 et elle m'a aidé vraiment en m'apportant des choses, des documents qui étaient fiables, hein, sur lesquels je pouvais vraiment m'appuyer pour apporter un peu de fond vrai dans le roman, quoi.
Oui, parce qu'on oublie souvent, mais que bon, chaque roman, chaque œuvre de fiction s'appuie à 99% sur un gros travail de recherche et de documentation. C'est inévitable, ça c'est clair.
Ooh.
vous écoutez Dominique Legrand, auteur de 8865, paru chez Hugo dans la collection New Way, au micro de Culture Prohibée. Moi, j'avais envie de te poser une question, parce que l'émission avance. Et alors, moi, je sais que si on me demande de parler d'une fiction qui met en scène des animaux, et une fiction un peu hors norme que j'adore par-dessus tout, c'est La planète des singes de Franklin J. Schaffner, que je trouve un film assez extraordinaire, qui m'a marqué durant mon enfance, et du coup qui est un peu aussi une sorte de Madeleine de Proust. Mais je voulais savoir, toi, est-ce qu'il y a une... Est-ce que tu as une ou plusieurs fictions de prédilection, d'ailleurs pas forcément des films, qui mettent en scène des animaux ?
Il y en a beaucoup. Alors, des films, alors c'est très très différent. Ça peut aller... tout à l'heure, vous parliez de Cujo. Bon, c'est un roman, à la base, c'est un roman que j'aime beaucoup, un roman de King que j'aime beaucoup, et justement qui est intéressant, où on prend un animal qui est plutôt bienveillant, on le transforme en monstre. Bon, et c'est vrai que c'est plutôt astucieux. Bon, alors bien sûr, des tas de films sur les animaux, j'en ai, passant par les Dents de la Mer jusqu'aux oiseaux. Enfin bon, c'est des animaux justement qui sont. Alors justement, il y a une ambiguïté sur les Dents de la Mer qui est un film, bon, qui est un film très très efficace, hein, très bien fait, même 45 ans après, ça fonctionne encore. Et le problème, c'est qu'il a créé un malentendu à propos des requins, hein, c'est-à-dire que voilà, on a massacré, on peut dire, en toute légitimité, les requins, pas forcément à cause du film, mais c'est vrai que le film en a fait un animal tellement terrifiant que finalement, c'était pas très gênant si les requins disparaissaient de la surface du globe. Et voilà, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est justement un animal à protéger. Non, des animaux, moi j'ai toujours été très impressionné par un film qui est un des premiers films de Ken Loach, qui s'appelle Kes, et qui est l'histoire d'un enfant un petit peu à la dérive, un jeune adolescent un peu perdu, qui va finalement se trouver une amitié avec un faucon. Et c'est un film qui m'a toujours un épervier, je crois, enfin un petit oiseau qu'on peut dresser. C'est un film qui m'a toujours beaucoup plu, et justement qui montre que ouais, j'ai toujours été assez fasciné par le fait que on peut toujours trouver de l'affection, du réconfort, voire parfois de l'amitié avec un animal. Hein, c'est par exemple, je pense à La Ligne Verte, avec ce prisonnier justement qui a trouvé du réconfort grâce à une petite souris, et ce qui est un fait d'ailleurs, un fait tout à fait attesté, hein, dans les prisons aux États-Unis. On a fait des expériences comme ça où on confiait à des prisonniers qui étaient vraiment des gens qui avaient commis des délits, qui avaient parfois tué, enfin vraiment des prisonniers assez costauds, hein. On leur confiait un petit chat ou un petit lapin, et d'un seul coup, on s'apercevait qu'ils retrouvaient une humanité qui était enfouie en eux et qui avait disparu, quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours assez troublé, qui fait que finalement, on est proche des animaux, on vit avec eux, et on a beaucoup plus de contacts et de rapports avec eux qu'on pourrait l'imaginer, en fait.
Bah écoute, ça, je pense que ça va faire une très belle conclusion à l'émission, à moins que mes camarades veulent s'exprimer sur une fiction avec des animaux qui leur plairait. Ils ont 5 minutes maximum à eux deux, voilà, puisqu'on est dans, pile poil dans les temps, là. Alors, Damien, non, tu voulais dire quelque chose, ou Thomas ?
Je vais peut-être te reprendre sur, rapidement, du coup, sur La planète des singes, pour y glisser... deux, trois mots, donc pour le premier film, en tout cas, qui est vraiment génial, pour rappeler que de base, c'est un roman français, donc Cocorico, et que c'est appréciable de voir justement les différents messages qui passent dans ce film, que ce soit ceux anti-esclavagistes, dans un renversement des normes, pour reprendre ce que disait Dominique, et en général, les films qui mettent justement des animaux en avant, c'est souvent des fables, donc toujours avec une vision assez moralisatrice, enfin pas moralisatrice, mais avec à la fin une morale. C'est un film agréable avec la vision justement de multiples espèces, donc avec des différences d'intelligence en fait, pour apporter l'idée qu'en fait plusieurs espèces peuvent vivre en harmonie, en même temps une opposition à la xénophobie. Et une petite anecdote que j'ai découvert qui est que Rob Sterling, le créateur de La Quatrième Dimension, justement disait de La Planète des Singes que ce n'était pas une œuvre de SF, mais que c'était une belle allégorie morale et une œuvre cinématographique, philosophique.
Moi, je voulais terminer sur un film de Joe Carnahan, réalisé en 2011, s'appelle Le Territoire des Loups. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le film parce qu'on n'a pas trop le temps. Je voulais juste dire que ça met en scène donc des loups. Hein, et que les loups ont tendance à être souvent diabolisés, comme le requin dans les films. Là, il représente la mort, en fait. Hein, il représente une nature hostile et puis ça représente la mort des personnages qui doivent faire face à leur propre mort. Donc, c'est un film un peu plutôt existentiel, hein, plutôt proche du fantastique, etc. Mais pour dire qu'en fait, les loups n'attaquent pas l'homme. Les loups, à moins qu'ils soient affamés, qu'ils n'aient rien d'autre à bouffer, les loups ont plutôt peur de l'homme en général, et qu'il faut faire attention quand même à cette diabolisation des animaux qu'on a, que ce soit l'ours. Bon, l'ours, en même temps, tu te prends un coup de patte, bon, t'as plus de tête, mais... Les loups en général n'attaquent pas l'homme. Bon, ils attaquent du gibier, bien sûr, c'est ce qui emmerde les éleveurs, bien, je peux le comprendre, mais les loups n'attaquent pas l'homme. Ce sont des animaux assez peureux en général, et qu'il faut prendre garde quand même à cette diabolisation que le cinéma fantastique a un peu tendance à faire des animaux.
Je rappelle que l'ouvrage de Dominique Legrand, intitulé 8865, est disponible dans la collection New Way aux éditions Hugo. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.